Interview.
Okay, då börjar vi.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec Thierry Ruff. Bonjour.
Bonjour.
Thierry Ruff, vous êtes administrateur de l'Association pour la protection des animaux sauvages, l'ASPAS donc.
Oui, tout à fait.
Nous allons commencer par parler de cette association, hein, rappeler aux auditeurs ce qu'elle est et son action. Et aussi, vous êtes ici pour nous parler de l'actualité, notamment ces mesures contre le loup. Et puis là aussi, l'actualité, je ne sais pas si elle impacte aussi la vie sauvage, c'est cette fameuse loi du plomb. Est-ce qu'il y a un avis sur cet aspect de l'agriculture ? Alors Thierry Ruff, avant tout, qu'est-ce qui vous a amené à agir au sein de cette association, l'ASPAS ?
Alors, il y a déjà très longtemps que je suis hyper sensibilisé à la défense de l'environnement, des animaux sauvages et enfin tout ce qui nous touche directement, tout ce que nous respirons, tout ce que nous buvons, tout ce que nous mangeons, donc tout ce qui fait partie de la chaîne de la biodiversité. Et bon, j'ai été bénévole depuis déjà plusieurs années, j'étais bénévole pour l'ASPAS. J'ai commencé sur la réserve de vie sauvage qui est située dans le Vercors, dont vous avez sans doute entendu parler. Donc c'est un ancien enclos de chasse de 500 hectares que nous avons racheté pour relaisser maintenant en libre évolution, pour que la nature puisse se développer, s'épanouir, enfin quand je dis nature, que ce soit végétation, les arbres et ainsi que les animaux.
Voilà, nous avions enregistré une émission avec l'association qui était venue parler de cette terre acquise sur le plateau. On peut parler aussi de l'ASPAS, quelle est son action et peut-être aussi sa disposition sur le territoire national.
Alors, son action, l'ASPAS, alors elle est créée à une quarantaine d'années. L'ASPAS a deux pôles hyper importants. Le premier, c'est pas un critère de d'ordre, c'est le pôle juridique. Donc on a une action juridique, on a à peu près, je dis à peu près parce que c'est difficile de compter au fil des années, on a à peu près 40 000 actions en justice pour défendre l'environnement, la nature, la biodiversité et les animaux. Donc voilà, ça c'est le premier pôle, le premier pilier.
Ça c'est, quand vous parlez de ce nombre, ça leur représente telle période ?
Eh bien, sur une quarantaine d'années environ, puisque l'association a à peu près 42 ans maintenant, je crois. Voilà, c'est ça, 42 ans.
Et juste, est-ce que vous avez établi un bilan, un recul de ces 40 années, et à savoir, est-ce qu'il y a de plus en plus de difficultés à agir en justice ?
Je pense que les difficultés sont les mêmes, puisqu'il faut que la justice se saisisse et puisse s'approprier plus facilement et connaisse mieux tout ce qui touche à l'environnement et à la vie sauvage, ce qui n'était pas forcément le cas. Mais aujourd'hui, je pense que certaines juridictions, certains juges ou certains tribunaux commencent à vraiment le prendre en compte et à le considérer. Mais c'est vrai que ça ne faisait pas partie des habitudes de la justice, de ce genre de dossier. Quoi.
La justice, vous vous appuyez sur des lois, certainement.
Toute façon, oui. Nous sommes obligés.
Mais justement, ces lois, est-ce qu'elles sont considérées par la justice? Si on peut se questionner, justement, vous semblez dire que c'est toujours les mêmes difficultés. Est-ce qu'il y a, de la part de la justice, le fait de traîner un peu les pieds?
Alors, je ne pense pas qu'elle traîne les pieds, mais je pense que la justice aujourd'hui croule sous le nombre de dossiers, pas seulement les nôtres, et que ce qui fait que quand on entre dans ce circuit, bon, il faut un certain temps pour que les dossiers arrivent aux bons endroits et ensuite soient traités éventuellement, passent devant les juges, quoi. Mais c'est surtout le fait que je pense que la justice est très très encombrée, très chargée, quoi. Voilà.
Alors, cette activité n'est pas seulement juridique, vous avez aussi d'autres aspects de cette association ?
Alors, l'autre pôle important, c'est l'acquisition de terrains. Quand je dis de terrains les plus grands possibles, justement pour les remettre en libre évolution. C'est-à-dire, plus aucune intervention humaine, que ce soit exploitation, que ce soit chasse, enfin, que ce soit pêche. Mais ces territoires, quand nous les avons, nous ne les fermons pas au public. Ils sont toujours accessibles, voilà, avec des orientations, du conseil, de l'information, de l'éducation. Mais c'est relaisser la nature s'exprimer, puisqu'on en a besoin aussi. Donc, en quoi les territoires, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi mesurer les conséquences de cette libre évolution, donc quand on laisse la nature faire. Et voilà, c'est par exemple mesurer le taux de captation du carbone, de voir comment se comportent les forêts, et puis ensuite, bien sûr, étudier toute la faune en fonction de tout cela, quoi.
Quand vous dites qu'il n'y ait aucune intervention humaine sur un terrain donné, est-ce qu'il y a quand même une prise en compte des normes anti-incendie ?
Tout à fait, ça fait partie de nous. En plus, on a des plans de gestion. Ce ne sont pas des plans de gestion d'un point de vue comme exploitation, mais des plans de gestion justement de préservation, de développement. Et l'incendie, c'est vrai que c'est une de nos préoccupations. L'avantage, si je peux dire, c'est que ces forêts en libre évolution ont un couvert végétal qui est important, ont une biomasse et ont tout, enfin, exemple, les feuilles qui tombent au sol, les mousses, constituent un tapis qui est assez important et qui conserve une certaine humidité. Ce qui fait que, je ne le souhaite pas, mais bon, les incendies sont beaucoup moins probables dans ce type de lieu. Il faut savoir aujourd'hui que les incendies, enfin, ce n'est pas moi qui le dis, il n'y a qu'à suivre l'actualité, ils sont à plus de 90%, même plus, d'origine humaine. Donc, un incendie naturel, c'est l'orage chez nous, enfin... J'ai pas connaissance chez nous qu'on ait des incendies qui aient démarré avec des orages.
Mais voilà. On en a eu un il y a 3 ans à Romillé.
Oui,
ça c'était dû à la foudre. Hein.
C'était dû à la foudre, effectivement. Oui. Mais c'est vrai que c'est assez rare. C'est assez rare.
Ouais. Et cet aspect donc, de réglementation de ce territoire, est-ce qu'il est calqué sur un cahier des charges qui émane d'un service tel que les parcs?
Non, pas encore.
Vous êtes plus en pointe comment s'établit justement cette tenue de terrain
C'est basé en fait les textes sur l'Union internationale de la conservation de la nature, l'UICN, qui classifie les terrains en fonction justement de ce qu'on y fait ou de ce qu'on n'y fait pas. Voilà, c'est surtout basé là-dessus, mais c'est pas aléatoire, c'est pas, il y a des bases, il y a un recul scientifique, et voilà, un historique scientifique aussi.
Alors, dans ces lieux, il y a la faune également qui y vit. Oui. Et vous avez ce regard sur ces animaux sauvages. Vous établissez une comptabilité aussi de ce qui y vit.
Voilà, on essaye dans la mesure du possible, avec la faune, avec les animaux, avec la nature. Donc on sait que, heureusement et par définition, c'est pas toujours facile. Mais oui, on essaye de compter, que ce soit en faisant simple, du papillon jusqu'au grand angulé. Donc, et puis voir un petit peu ce qui se passe entre toutes les espèces et les répercussions des unes sur les autres, quand on n'intervient pas et quand on laisse faire.
Et le fait de comptabiliser, est-ce que vous êtes de nombreux bénévoles à agir pour peut-être prendre le pouls de terre? On peut nommer ce terrain sur le plateau?
Oui, c'est la réserve de vie sauvage de Valfangeous. Voilà, c'est sur Léoncelle.
Et donc, il y a des visites. Est-ce que le public qui vient visiter prend part aussi à peut-être relater ses rencontres ou ses observations?
Alors, c'est possible. Ce domaine est en deux parties, en fait. Il y a une partie qui est en libre accès, avec un cheminement qui est balisé, avec des indications de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ce sont des indications pour les promeneurs. Indications aussi de sécurité, puisque le Vercors, comme vous le connaissez, n'est pas forcément sécure pour tout le monde. Il y a du sialet, il y a des trous, des endroits où on peut se perdre. Donc c'est pour ça que les sentiers sont balisés. On recommande vraiment aux personnes de venir. Et puis si elles le peuvent, si elles le connaissent, nous contacter et puis peut-être faire le tour avec des bénévoles. Mais enfin, ce ne sont jamais des grosses quantités de personnes. C'est quand même assez confidentiel et préservé. Et la seconde partie, elle, par contre, comme c'est un ancien enclos de chasse, elle est encore fermée aux visiteurs, parce qu'il y a encore des animaux qu'on ne peut pas relâcher. Ça, c'est la législation. Les animaux qui étaient chassables ne peuvent pas être relâchés dans la nature. Donc, ils sont soignés. Nous avons un vétérinaire, une vétérinaire en l'occurrence. Ils sont tous vaccinés, vermifugés et stérilisés. Ça, c'est hyper important, puisqu'on a des espèces qui sont endémiques, comme le cérélaf, mais aussi des espèces exotiques, comme les cercicas. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient tous stérilisés. C'est une demande de l'administration de l'État pour éviter qu'il puisse y avoir un croisement génétique avec des espèces sauvages. Mais par rapport à ça, on essaie d'être hyper prudent. Donc on a aussi fait faire des analyses génétiques sur tout notre cheptel pour être certain qu'il n'y ait pas de problème aujourd'hui. Donc il n'y en a pas. On n'est jamais à l'écart d'un animal sauvage qui pourrait sauter dans l'enclos, puisque l'enclos est destiné à les empêcher de partir, mais pas dans certains cas de rentrer. Mais pour l'instant, tout se passe bien. On a de bonnes relations avec les directions départementales des territoires, qui est notre interlocuteur de l'État.
Vous êtes ici aussi pour parler d'actualité, et notamment cette campagne relancée par Emmanuel Macron contre le loup. Donc, en premier lieu, quelle a été votre réaction sur ce déclassement d'animal protégé ?
Alors, pour mes réactions, donc, c'est surtout un déclassement, enfin, de notre point de vue, des associations de protection de la nature. Et nous, on fait partie d'un panel d'associations qui sont sur la même longueur d'onde. C'est surtout une volonté politique de déclasser le loup. Pour essayer d'apaiser un peu les tensions et avec certains éleveurs et surtout avec des organismes syndicaux d'éleveurs qui sont très critiques par rapport. Mais ça, c'est pas récent. Hein. Le loup, il est là, il est revenu depuis plus de 30 ans et à l'origine, les choses ont commencé à dégénérer par rapport aux éleveurs, avec le retour du loup, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je comprends, on est plutôt du côté des éleveurs et des éleveurs traditionnels, des bergers qui font leur travail, ce qui n'est pas vraiment le cas. Donc je n'ai pas peur de le dire, enfin, je m'engage personnellement là-dessus, sur les grands éleveurs qui ont des milliers de moutons qui lâchent comme ça dans la nature. Mais bon, on a beaucoup ici, sur le territoire, de petits éleveurs qui font très très bien leur boulot, qui font de super produits. Et je regrette que l'État, enfin, ou que les collectivités même, ne les aident pas plus pour faire reconnaître la qualité de ce qu'ils font. Et puis les aider à peut-être faire de la vente directe, à travailler en direct avec les consommateurs, plutôt que d'être étranglés, j'ai pas peur de le dire, par l'agro-industrie ou par les grandes surfaces qui rachètent les produits vraiment à très très bas coût, quoi.
Vous semblez dire que par manque d'humains sur certains terrains, le loup vient.
Alors, si on parle de prédation sur les cheptels, le loup, normalement, lui, il préfère prédater la faune sauvage. C'est ses proies de prédilection. Ensuite, ce qui se passe souvent, c'est que de déranger, d'occuper du territoire ou de tuer des loups dans une meute, on déstabilise la meute. Les dominants, les anciens, entre guillemets, qui ont une expérience de la chasse et de la faune sauvage, si c'est eux que l'on tue, ils ne seront pas là pour enseigner et éduquer les plus jeunes à cette chasse. Et la solution de facilité, ça va être d'aller attaquer des troupeaux, et la majorité des cas, c'est quand les troupeaux ne sont pas protégés. Quand je dis pas protégés, alors c'est pas facile, hein, je dis pas que c'est facile de protéger un petit cheptel, une situation géographique qui le permet, c'est assez facile. Quand ça devient très grand, c'est plus compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'il faut protéger par des barrières, et il faut surtout une présence humaine. Enfin, après, le retour d'expérience que nous avons, et c'est personnel aussi, c'est ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en Slovénie. Il y a encore des bergers, et le fait d'avoir besoin de bergers, c'est peut-être aussi un moyen de faire travailler des gens comme bergers. Il y a beaucoup de jeunes les écoles de formation de bergers ont beaucoup de demandes, et il y a beaucoup de personnes qui souhaitent être bergers. Ah bon, après, effectivement, c'est le problème, si c'en est un, c'est qu'il faut les payer. Donc, il faut que l'éleveur ait les moyens de les payer. Il y a des aides, hein, l'État octroie des aides pour la prise en charge en partie des rémunérations des bergers. Comme il octroie des aides pour poser des barrières, comme il octroie des aides pour acheter des chiens, pour nourrir les chiens, pour éventuellement les éduquer. Mais ça, c'est un discours, mais il faut, je me mets à leur place, c'est pas facile, hein, il faut vraiment... C'est du boulot. Voilà, en parlant couramment, c'est du boulot. Aller poser des barrières, les enlever, les entretenir, débroussailler. Voilà, ça ne se fait pas comme ça. La surveillance, il faut pouvoir dormir la nuit. On ne peut pas être 24 heures sur 24 avec ces animaux. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des relais qui se font. Il y a aussi des associations qui proposent leurs services aux éleveurs pour venir faire du gardiennage. C'est bénévole, c'est gratuit. Donc ils s'installent et ils relaient les bergers et les éleveurs.
Votre champ de compétence, Thierry, occupe quel territoire
Alors, c'est 32 délégations en France. Donc, toutes les délégations, par délégation, j'aurais du mal à vous dire combien il y a vraiment de bénévoles par délégation, mais en adhérents, on a à peu près 15 000 adhérents, donc des gens qui adhèrent chez nous, quoi. Mais bon, après, selon les délégations, il peut y avoir 15, 20, 30, 40, 50 ou plusieurs centaines de bénévoles. Donc là, ensuite, c'est à répartir en fonction des délégations.
Je parlais cette présence du loup. Est-ce qu'elle s'étend de plus en plus sur le territoire national ?
Alors, elle devrait pouvoir s'étendre. Elle devrait pouvoir reprendre les territoires qu'elle a perdus il y a une centaine d'années. Et aujourd'hui, elle a extrêmement de mal à s'étendre et à regagner tous les territoires qui sont à l'ouest du Rhône, c'est-à-dire principalement le Massif central, le sud du Massif central. Tout simplement parce que certains syndicats ne veulent pas de la présence du loup. Donc voilà, ils sont tués. Alors ils sont tués légalement, puisqu'il y a des dispositifs légaux qui permettent de défendre ces troupeaux et de les tuer. Et aussi, j'ai pas peur de le dire, ils sont tués illégalement. Il y a du braconnage, il y a de l'empoisonnement, qui nous pose gros problème aux associations de protection de la nature. Parce qu'on empoisonne un loup, mais on n'empoisonne pas qu'un loup. On va empoisonner des vautours, on va empoisonner des renards, on va empoisonner des mustélidés. Voir nos chiens de chasse, chiens de défense de troupeaux, et puis on empoisonne l'eau en même temps. Donc voilà, c'est vraiment pas facile pour eux, quoi. Et ils ne peuvent pas s'étendre, parce qu'aujourd'hui, une meute, elle a besoin d'un territoire avec des proies, et si le territoire n'est pas assez grand, occupé soit par l'humain, soit occupé par d'autres meutes contiguës, si la meute n'a pas assez de place, si elle n'a pas assez de ressources alimentaires, elle ne va pas se développer à outrance. Donc, et si elle se développe, c'est quelques louveteaux, sachant qu'une portée de louveteaux, quasiment la moitié de la portée va disparaître dans la première année. Et ensuite, si les louveteaux devaient survivre et rester dans la meute, et ben la seconde année de reproduction, voire la troisième, certains sont des dispersants, ils vont partir chercher un territoire parce qu'ils n'ont plus assez de place et puis que la meute a besoin de conserver sa place originelle. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les dispersants, ceux qui s'en vont, qui partent chercher un territoire.
Et via cette régulation de la faune que pratique aussi le loup, est-ce que on peut parler plus particulièrement de la Drôme, qui est plus proche? Alors, quel est l'impact du loup sur la faune sauvage?
Alors, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des études. Alors, je les ai pas malheureusement avec moi, mais qui ont été faites par l'Office français de la biodiversité, le CNRS ou d'autres organismes. Le loup, en moyenne, va déjà, parmi la faune sauvage, prédater entre 20, 25, voire 30% de cette faune. Et ce sont surtout déjà les animaux sauvages, les vieux, ceux qui ont moins de capacité pour se défendre, pour se sauver, les malades, et aussi les très jeunes, qui se font plus facilement prédater. Donc cette proportion d'animaux-là, si le loup n'était pas là, de toute façon, il finirait par mourir naturellement de blessures, de maladies, de vieillesse ou au contraire de trop, trop faibles quand ils sont jeunes. Donc le loup, en quelque sorte, il assainit la... C'est aussi la preuve qui a été apportée dans d'autres pays. Il assainit et renforce la population. Alors le loup, il va prédater... Alors selon son territoire, ses territoires, s'il y a plus de sangliers, il va prédater plus de sangliers. Alors c'est sûr qu'un loup seul, il ne va pas s'attaquer à un sanglier mâle. Par contre, il va plus s'attaquer aux jeunes, aux bêtes rousses, aux jeunes. Si par contre, il y a plus de chevreuils, de cerfs, de biches, enfin d'ongulés, il va s'attaquer à ceux-là parce que c'est ceux qui sont le plus nombreux. Voilà. Donc il a une action sur cette faune sauvage. Ouais. Ouais, ouais.
Et justement, sur cette réserve, quel est le taux de régulation aussi de la faune sauvage au sein de ce lieu?
Alors, dans ce lieu, l'enclos, Sur l'enclos, on n'a pas de prédation, puisque aujourd'hui, on ne peut pas avoir de loup dans un enclos. Il n'y a que certains parcs animaliers qui ont une habilitation, qui ont le droit d'en avoir. Donc, il y en a quelques-uns en France, mais nous, on n'a pas de loup, on ne peut pas. Donc, on ne peut pas estimer, dans l'enceinte, dans notre enceinte de 300 hectares à peu près, on ne peut pas estimer, on ne peut pas dire qu'il y a de la prédation. Ensuite, là, les animaux, ils vont tous mourir de leur belle mort, c'est-à-dire de vieillesse. Puisqu'on les soigne et puis qu'on, voilà, et à terme l'objectif c'est d'enlever toutes les barrières pour rendre tout l'espace total à la nature, quoi. Après, bon, autour de l'enclos, mais comme dans tout le Vercors ou dans toute la Drôme et sur plein d'autres territoires, et ben il y a effectivement il y a du loup, il y a des meutes de loups, mais là c'est du suivi, mais ce n'est pas nous qui le faisons directement, qu'on le fait en association avec des personnes qui font ça depuis longtemps, quoi.
Comment s'opère cette réaction vis-à-vis de cette déréglementation du loup et puis de ce mot lancé par le président contre le loup?
Alors, le président, mais pas seulement le président, hein, donc en général, certains politiques, ont besoin, je pense, de garder des électeurs. Et le loup, lui, est le bouc émissaire, donc lui, il sert de un petit peu de disjoncteur et de faire plaisir à certaines personnes et à certaines catégories de personnes. Mais alors, si le président de la République, si le président Macron, il parle de loup, j'ai pas peur de dire qu'il n'y connaît rien. Donc, on peut pas tout connaître. Même des personnes qui sont référentes, spécialistes de loup, découvrent tous les jours des choses nouvelles. Donc, on a quand même affaire à un animal sauvage que l'on connaît quand même de mieux en mieux, mais on fait toujours des découvertes, on n'est jamais sûr. Alors, dire qu'il faut les éliminer, et puis surtout les éliminer d'un endroit où il y a du pastoralisme, on va les éliminer, c'est comme les souris dans votre maison. Vous avez des souris, vous les éliminez, vous êtes tranquille pendant un an, pendant 6 mois, un peu plus, et puis forcément il y en a qui vont revenir, puisque les loups vont revenir partant d'autres meutes. Si on veut se débarrasser des loups, si on voulait s'en débarrasser, il faudrait tous les tuer. Même si on les tuait tous, comme il s'est passé jusqu'à en 1930, où il n'y avait plus de loups, enfin 30, 32, c'était le dernier loup, et ben en 93, ils sont revenus naturellement en Italie. Et s'il n'y en avait plus en Italie, ils reviendraient peut-être par la Slovénie, ils reviendraient des pays de l'Est, de l'Allemagne, ou alors il faut les éradiquer de toute l'Europe, si on n'en veut plus, quoi.
D'ailleurs, dans ces autres pays d'Europe, est-ce que vous vous intéressez aussi à cette étude sur le loup? Et quelles sont les différences avec ce qu'on a chez nous en France?
La différence, c'est qu'en France, je crois qu'on a l'arsenal législatif le plus important pour tuer du loup. Donc, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Si on prend un pays voisin, alors pas dans son ensemble, il faut rester mesuré dans ce que l'on dit. Si on prend l'Italie, si on prend les Abruzzes, par exemple, dont beaucoup de monde parle et que beaucoup de monde connaît de plus en plus, le loup, il a toujours été présent. Et là-bas, le loup, mais pas que lui, hein, il y a l'ours aussi, et toute la faune en général, les grands ongulés, le cerf, les biches, qui ont toujours été présents, qui ont toujours été en bon équilibre naturel. Eux, ils génèrent une ressource économique. Ils génèrent une ressource économique aux habitants, parce que c'est un plateau. Alors les Abruzzes, c'est un peu comme le Vercors. En géographie, c'est un peu les mêmes altitudes. Certains sommets sont plus grands, plus hauts. Mais sinon, géographiquement, géologiquement, au niveau de la forêt, c'est un peu le Vercors. Et gros, il y a eu une grosse déprise agricole, donc beaucoup de gens se sont exilés, puisque c'était des agriculteurs ou des éleveurs, et qui n'arrivaient plus à vivre de leurs ressources, donc ils sont partis. Et quand les grands prédateurs sont revenus, là, ça a été un peu la manne financière, parce que si vous avez la chance d'aller là-bas, vous allez à Pescasseroli, par exemple, qui est la ville-centre du parc des Abruzzes, vous allez avoir le bar de l'ours, la taverne du loup, et puis il y a des effigies de loups, d'ours, de cerfs, il y a des milliers de naturalistes et de photographes qui viennent à la période du brame pour voir le brame du cerf. Vous avez pour avoir des cerfs dans la rue, comme il y en a un qui traverserait ce soir ici à Die avec des biches ou des biches couchées dans le jardin à côté là. Ou des ours qui passent, qui viennent vous manger vos pommes et vos poires dans le jardin. Voilà, vous rentrez chez un charcutier, un boucher, il a un poster au fond de la boutique, c'est le poster de l'ours avec son ourson ou son oursonne. C'est la mascotte de la boucherie ou de la charcuterie. Mais c'est complètement différent. Donc,
il existe donc en quelque sorte un consensus avec les habitants, les éleveurs.
Les éleveurs, ils travaillent, ils ont des cheptels beaucoup plus petits. C'est environ, on en a rencontré, on rencontre des éleveurs. Hein. 300, 400 brebis, mais pour 300, 400 brebis, il y a peut-être 7 ou 8 chiens. Deux protections, il y a les chiens de conduite, et puis il peut y avoir 2, 3 bergers. Donc, et puis les parcs, les animaux sont regroupés en parcs de nuit. Alors ce ne sont pas des super parcs, il ne faut pas croire que c'est des trucs, des forteresses. Non, non, c'est un simple enclos. Mais il y a les chiens qui dorment avec les brebis, il y a les chiens qui tournent autour. Et puis il y a les bergers qui sont juste à côté avec une lampe qui est allumée au bout d'un poteau. Enfin, c'est, ça a l'air un peu fou ce que je raconte, mais il faut aller voir. Donc,
Et au niveau du loup, est-ce qu'il y a justement des atteintes de cette organisation ?
Bah, le loup, il va prédater en priorité la faune sauvage parce qu'elle est hyper, hyper abondante.
Donc il se tourne plutôt vers la faune sauvage,
plutôt vers
la faune
sauvage.
À cette organisation.
Bah oui, si les moutons, les chèvres ou d'autres animaux sont protégés, ils vont se tourner naturellement vers la faune sauvage qui est abondante et avec laquelle ils ont moins de risques d'avoir un conflit avec des chiens de défense, quoi.
Alors, cette guerre déclarée au loup, comment va-t-elle s'articuler, se développer au niveau de notre territoire, par exemple de la Drôme ?
Je vais être franc, à ce jour, aucune idée. Donc là, ça a le mérite d'être franc, aucune idée. Dans la mesure où bon, l'Europe a déclassé le loup, la France pourrait le déclasser alors de la directive Habitat, Faune et Flore, c'est la directive qui régit tout ça. Mais la France n'est pas obligée de le faire. Il y a déjà des pays européens qui ne veulent pas le déclasser. Donc, mais s'il y a un déclassement, forcément, je pense que ça va être sous la pression du ministère de l'Agriculture, voilà, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, pour essayer, soi-disant, de soutenir un élevage ou une agriculture qui dans les conditions actuelles, sont quand même en péril, hein, mais ils sont plus en péril du fait des échanges internationaux, de tout ce qu'on peut importer. De par le monde, ne serait-ce qu'au niveau de l'élevage ou autre, hein, donc, et qui plombe la rémunération de nos éleveurs et nos agriculteurs, quoi.
Je reviens sur l'ASPAS et donc son aspect juridique. Quelles sont les affaires courantes qui sont mises en justice ?
Bah, si on prend les dernières affaires là, qui sont toutes récentes, mais il y en a d'autres aussi bien d'autres avant, c'est par exemple d'attaquer en justice un arrêté préfectoral de tir de défense, enfin soi-disant de défense, pour permettre à des éleveurs de tuer du loup. Quoi. Voilà, c'est les affaires. Mais ensuite, bon, ce sont toutes les atteintes aux autres espèces. Donc c'est sauvegarder le renard, c'est sauvegarder le blaireau, c'est sauvegarder la martre, le jet des chênes, la corneille, enfin, tous les animaux qui sont ou qui étaient et qui sont classés espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, autrement dit avant qui étaient classés nuisibles, mais qui étaient classés comme ça depuis des dizaines d'années en fait, hein, et sans qu'il y ait vraiment de justificatif, de constat de dommages occasionnés. Voilà, c'est pour ça qu'on arrive à faire casser beaucoup d'arrêtés préfectoraux ou d'arrêtés ministériels, tout simplement.
Hein. Il y a aussi cet aspect d'animaux sauvages. Quelle est leur occupation par rapport aux habitations ? Est-ce qu'il y a une distance prédéfinie qui permette de dire que là, on rentre plus sur un territoire d'animaux sauvages ?
C'est hyper difficile à dire avec des espèces qui sont capables de s'adapter. Mais s'il y a présence humaine, il y a vraiment très très peu de chances d'avoir cette faune sauvage. Et du loup, si on parle de lui, hein, parce que souvent on parle de lui. Donc certaines personnes essayent de faire peur à la population maintenant. En disant qu'il y a peut-être un risque que les loups sont approchés. Alors ça arrive, hein, que des loups viennent prédater soit un animal sauvage, même un domestique qui n'est pas protégé, à la sortie d'un village, il serait même capable, enfin je n'ai pas peur de le dire, de venir le prédater carrément dans le village. Hein. C'est, d'ailleurs en Italie, on a des expériences, des preuves de ça, mais il n'y a pas de danger. La première chose que va faire le loup en présence d'un humain, même s'il est sur une proie en train de la manger, c'est de fuir, il va se sauver. C'est une croyance, c'est un mythe de croire que le loup va attaquer. Et cette croyance et ce mythe sont alimentés par une peur qui remonte à très loin. Aujourd'hui, là, si on demande à quelqu'un un loup, qu'est-ce que c'est pour vous un loup ? On va tout de suite vous dire, majoritairement, bah, c'est un gros chien qui fait 80 cm au garrot, qui pèse 60 ou 70 kg, parce que quand on voit toutes les photos qu'on a dans les journaux ou sur Internet, et bah, ce ne sont pas nos loups. ce sont des loups qui viennent d'Amérique du Nord ou qui viennent du Nord et effectivement qui sont beaucoup plus imposants que les nôtres. Chez nous, un mâle, un loup mâle, s'il est grand, il va peut-être faire à peu près 70 cm au garrot. C'est un grand chien et il va peser 40 kg. Si vraiment il pèse 40 kg, c'est que c'est déjà une sacrée belle bête. Une femelle, ça va être entre 25 et 30 kg et à peu près 60 cm. Donc ce sont des chiens moyens, voire petits chiens. Donc, la première chose qu'ils font, un loup est capable de vous sentir à plusieurs centaines de mètres à contrevent. Alors qu'il ne devrait pas. Il va vous entendre à plusieurs dizaines de milliers de mètres. Donc ils ont des facultés qui sont quand même assez énormes. Et la première chose, c'est de fuir ou de se cacher. Donc essayer de faire peur à la population, c'est... Mais voilà. Et là encore, j'ajoute qu'avec un animal sauvage, comme avec un chien, on n'est jamais sûr à 100% de quoi que ce soit. Le chien de votre voisin, coincez-le dans son jardin ou dans son enclos... Il y a des chances qu'ils ne soient pas tellement d'accord avec vous. Hein, donc voilà. Mais comme avec n'importe quel animal sauvage, essayer de coincer un mouton ou un bouc qui n'a pas envie de se laisser faire, c'est pas un loup, mais il va vous faire comprendre qu'il n'a pas envie, quoi.
Il y a ce territoire à Léoncelle, c'est un lieu de 500 hectares.
Oui, 500 hectares.
Ouvert au public.
Il y a une partie qui est ouverte au public, oui.
Avec des horaires définis,
non,
des
non,
présences.
Non, il n'y a pas d'horaire.
C'est libre d'accès.
C'est libre d'accès, les sentiers sont balisés, il y a du panneau indicatif. C'est libre d'accès, quoi. Mais comme je le disais tout à l'heure, le mieux, c'est d'appeler l'ASPAS. Et puis, on a un conservateur sur le coin qui se fera sûrement un plaisir, peut-être, d'accompagner. Ou des bénévoles qui peuvent accompagner aussi des personnes. Mais ils nous appellent à l'ASPAS et ils nous font part de leur désir, quoi.
D'ailleurs, tout au long de l'année, est-ce que l'ASPAS propose des rencontres sur ces sites pour présenter un peu ces aspects de cette nature?
Alors, ça a été effectué avec les journées naturalistes du Royan, où nous en avons dû en entendre parler, qui sont organisées entre autres par France Nature Environnement, par la FRAPNA, la LPO. Donc, il y a des groupes de personnes qui ont été accompagnées. Il y a des groupes de personnes qui ont été accompagnées. Mais bon, après, on essaie de laisser un maximum de conserver un maximum de sauvages, justement, pour ne pas déranger. Ou alors, après, c'est ce que je dis, c'est accompagner, c'est encadrer avec des... Voilà, avec du conseil et de l'éducation. C'est pas un parc de loisirs.
Non, c'est pas un parc de loisirs. C'est une réserve.
C'est une réserve, voilà. Le plus de quiétude et le plus de sauvage et de naturel, de silence possible, quoi. Sans laisser aucune trace.
Au-delà de cette actualité, quels sont d'autres faits, notamment sur cette fameuse loi du plomb très décrié, surtout par rapport à l'utilisation de produits pesticides, fongicides et compagnie. Semble-t-il, cet article a été censuré par le Conseil constitutionnel, mais ce n'est peut-être que de la poudre aux yeux. Il y a aussi d'autres problèmes dans cette loi. Mais avant tout, il y a... cet aspect de ces utilisations de produits, est-ce que vous avez justement notamment ce constat de cette nocivité sur les animaux?
Alors c'est hyper difficile, je vais être honnête, il n'y a pas d'études qui constatent ça sur les animaux, enfin chez nous du moins. Après par contre peut-être, très certainement, même c'est sûr, chez les apiculteurs, eux oui, ils ont des retours, hein, donc de dessins d'abeilles qui meurent. Mais chez nous, donc on a surtout, alors on pourrait le voir si on n'était pas sans doute dans un endroit de montagne préservé où il n'y a pas d'agriculture. Donc il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'épandage de pesticides. Donc on a quand même des... Et là on voit qu'on a encore du papillon, on a des oiseaux, alors que quand on redescend sur des endroits qui sont hyper cultivés, enfin, je ne veux pas la critiquer et l'accabler un plus, je reviens de Bretagne, on pleure. Les oiseaux, les insectes, les papillons, on se demande où ils sont passés, il n'y en a plus. Donc ce n'est pas compliqué. Hein. Donc là, ce que je dis, toute personne qui va là-haut va s'en rendre compte. Hein. Alors que chez nous, on a quand même la chance, ici, dans le Vercors, ici jusque tout le Vercors, la Drôme, l'Ardèche, même Savoie, Haute-Savoie, c'est pas rare de voir du rapace, toutes sortes, hein, du faucon cresserel, de la buse variable, du milan, quand c'est la période de migration, et puis bon, du nocturne, des rapaces nocturnes, et puis bon, après, des passereaux, alors passereaux peut-être un peu moins, parce que là, c'est le changement climatique qui leur fait payer un lourd tribut, mais on a quand même cette richesse ici qu'il faut préserver. Alors là, on parle des animaux, on parle des insectes, mais il faut parler de nous aussi, parce que là, nous, on est peut-être plus résistants, on encaisse peut-être plus, mais je pense qu'à long terme, les centres de cancérologie, on voit ce que ça donne, quoi, au niveau des patients. Mais, voilà. Et après, souvent, ce sont les exploitants, les agriculteurs eux-mêmes qui en pâtissent. Hein. Là aussi, moi, je les rejoins et je compatis avec eux. Hein. Si pour produire, je suis obligé de mettre des produits qui sont nocifs, eh ben, j'en prends avec, comme la nature. Et après, cette utilisation de produits nocifs, c'est pas moi qui le dis, c'est quand même réservé à certaines grosses exploitations qu'on n'a pas chez nous. Donc on va accorder ça de partout et, voilà, et ça retombe sur tout le monde. Donc,
Une petite dernière question, justement par rapport à ces contraintes dites environnementales. Il y a aussi cette réaction d'un public en parlant d'éco-terrorisme. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, cette appellation? Qu'est-ce que ça éveille en vous?
Moi, ça me fait rire, parce que si on était des éco-terroristes, il y aurait beaucoup plus d'actions hyper violentes de tous les côtés. Ce ne sont pas les écologistes qui vont dégrader, qui vont brûler, qui vont casser, qui vont menacer. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas ou que ça n'arrive pas très, très ponctuellement. Il faut aussi rester mesuré dans ses propos. Mais pour l'instant, le terrorisme, je ne sais pas si le terroriste, ce n'est pas plutôt celui qui épand des produits nocifs ou qui ment sur ce qui est vain et ce qui fait manger aux gens. Quoi. Donc, avec la complicité de certains politiques.
L'ASPACE édite aussi une revue.
Alors, tous nos adhérents reçoivent. Alors, ils sont abonnés à une newsletter qu'ils reçoivent, et en plus, ils reçoivent un petit fascicule, voilà, qui parle de toute l'actualité juridique, de l'actualité environnementale, voilà. Mais ce sont les adhérents. Alors, une adhésion à l'ASPACE, ça peut aller. C'est, je crois qu'on commence à 10-12 euros, et puis ensuite plus si on veut. Mais bon, on peut être abonné à tout ce qui se passe chez nous, mais pas que tout ce qui touche aussi à l'environnement et à la biodiversité, et la nature. Hein.
Et le public qui souhaite se renseigner auprès de vous ou de demander un soutien, vous êtes là et comment être joint?
Alors, on a sur le site ASPACE, site internet ASPACE, il y a un numéro de téléphone, il y a même plusieurs numéros, en fonction de la question que vous avez, que ce soit une question juridique, que ce soit une collectivité, une mairie qui a besoin de renseignements, que ce soit un particulier ou un particulier qui souhaite mettre ses terrains en libre évolution et puis les extraire de l'exploitation ou faire des dons, des legs. On a beaucoup de donateurs qui nous font des dons et des legs. C'est ce qui nous permet aussi financièrement d'être entièrement autonome. On n'a aucune subvention publique. Donc ce sont les cotisations, ce sont les dons, les legs, le mécénat d'entreprise, des entreprises qui travaillent avec nous, que ce soit des avocats ou autres, voilà, qui profitent de ça. Mais là, non, il faut aller sur le site de l'ASPACE. Et puis on est aussi, on est souvent présent sur des salons, sur des foires. Donc par exemple, bientôt dans l'Isère, il y a la foire au naturel de l'Albinque. Ensuite, il y a la Chartreuse, on sera en Chartreuse aussi, à Saint-Pierre-d'Entremont et de Chartreuse. Donc, et là, on a des stands, Grenoble aussi, Journée du Blaireau, il y a des stands à Grenoble. Il y en a à Lyon, on fait un peu de partout. Donc, et là, les gens peuvent venir nous voir et avoir des renseignements, souscrire ou alors nous appeler. Donc, tout simplement.
Hein. Un prochain rendez-vous avec le public est prévu?
Alors, prochain rendez-vous, ben c'est la foire au naturel de l'Albinque dans l'Isère, entre Saint-Marcelin et Grenoble. Mais c'est près de l'autoroute, c'est la foire au naturel de l'Albinque. Puis après, il y en aura d'autres, je les connais parce qu'elles sont dans notre région, mais après en France, il y en a d'autres. Hein, donc, je pense qu'il y aura des manifestations qui vont arriver aussi plus importantes bientôt. Quoi.
Thierry Ruff, merci beaucoup d'être venu sur Air du Bois pour nous parler donc de l'ASPACE. Est-ce qu'il y aurait un air de musique pour finir l'émission?
Voilà, c'est, ça peut-être rien à voir. Je mettrai du Queen avec We Are the Champion.
Bonne soirée.
Merci à vous.
Au revoir.
I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes. I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through.
And I need to go on. and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.